Ce matin, notre sujet, qui vient d'être rappelé, s'intitule « L'iniquité en accroissement ». Revenons tout d'abord un peu sur ce que nous avons pu méditer hier soir, la contradiction. Vous avez sans doute pu en retirer cette certitude, cette idée que la contradiction a beaucoup plus d'importance peut-être que vous ne l'aviez pensé précédemment et que, en général, les chrétiens ne le pensent. Il y a beaucoup plus d'importance à attacher à cette contradiction, comme notre frère l'a dit à l'instant. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière, les ombres, les demi-teintes ne sont pas du tout dans le plan de Dieu. Où ce sont les ténèbres, où c'est la lumière. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui, ni dans son œuvre, ni dans son message, ni par conséquent dans la position que Dieu nous a préparée maintenant sur cette terre déjà pour que nous soyons ses enfants. La contradiction est un principe fondamental de l'Évangile, un principe qui est à respecter dans son intégrité. Si je dis cela, chers amis, c'est parce que depuis déjà longtemps, je vois avec la plus profonde tristesse, quelquefois, je ne suis pas le seul, avec des frères, nous nous lamentons même, ce n'était pas excessif de le dire, nous nous lamentons de constater certaines tendances dans l'Église ou certains glissements, les glissements de l'Église évangélique, j'entends, n'est-ce pas ? Et cela parce que l'on a perdu ou l'on n'a pas véritablement conservé dans le cœur ce principe de l'intégrité, de la contradiction qui est le caractère du message de Jésus. Il faut même aimer la contradiction, il faut l'aimer. Nous avons pu voir hier qu'elle est à la source même de l'œuvre du Seigneur. S'il n'y a pas cette contradiction qui agit, l'œuvre du Seigneur ne sera pas réelle, profonde. L'œuvre du Seigneur a besoin de cette contradiction. Que les hommes, en effet, soient touchés, qu'ils soient remués, qu'ils soient labourés, qu'ils se rebiffent, contradiction. Contre l'action du Saint-Esprit, il n'y a rien de plus souhaitable que cela. Ce que on peut déplorer, c'est l'indifférence, la mollesse. Dans l'Ancien Testament, il y a une figure à ce sujet, n'est-ce pas ? Ils ont leur cœur qui est mou comme de la graisse. C'est la mollesse, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien qui se fait, n'est-ce pas ? Il vaut mieux des gens qui se rebiffent. Beaucoup de ceux que nous avons vus se convertir au Seigneur étaient au début de ceux qui se sont rebiffés. La mission du Saint-Esprit est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, a dit le Seigneur. Et la Bible en français courant traduit ainsi. Je ne prends pas toujours cette traduction-là, mais quelquefois il y a de bonnes expressions, des expressions heureuses qui sont venues sous la plume des traducteurs de cette version. Le Saint-Esprit prouvera aux gens du monde qu'ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste, et au sujet du jugement de Dieu. Oui, le monde se trompe du tout au tout. Il n'a aucune vue sur la vérité. Jésus considérait ses contradicteurs contemporains comme des aveugles qui croyaient voir, des aveugles qui croient voir. Devant eux, il réaffirmait le principe de la contradiction. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ceux qui croient voir à leur manière, à eux, deviennent aveugles. De loin, à notre intention, le prophète Habacuc proclamait ceci, « Celui qui se gonfle d'orgueil n'est pas sur le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi. Rien de l'état humain ne saurait être amendé, amélioré, réparé. Le message de salut que Dieu adresse à l'homme entend affronter la puissance du péché en lui et traiter cet état de l'homme, cet état de péché de l'homme, par la mort. Voilà le traitement de Dieu, la mort. Car, ô paradoxe, la mort seule ouvrira la voie de la vie éternelle. Cet absolu, c'est la contradiction sans aucune atténuation possible. Il y a deux manières de vivre, il n'y en a pas plusieurs, deux seulement. Et ces deux manières de vivre sont en confrontation. Deux manières de penser et d'exister qui s'opposent comme deux pôles. Celle du monde et celle du Christ. Et aucune conciliation n'est concevable entre ces deux manières de vivre. Rien ne peut passer de l'une à l'autre, pas plus que, comme Abraham le disait à ce riche qui était dans le séjour des morts, le Sheol où il souffrait, il est impossible qu'il y a entre nous un grand abîme, impossible que nous passions de là vers vous ou de vous vers nous. Impossible. L'idée d'un compromis entre ces deux modes de vie n'a pas de sens. Tenter de rapprocher l'Évangile de son contraire reviendrait à imaginer une entente, un consensus entre Jésus et Satan dans le désert de la tentation. Certainement et partout, Jésus oppose un refus net, et bref, comme il l'a fait devant Satan, un refus net. Écoutons la parabole des outres. Nous la prenons dans Matthieu, au chapitre 9 et au verset 17. Chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Voilà comment quelle figure ici le Seigneur a employé pour nous montrer qu'il était impossible de mettre un peu d'Évangile, même un peu beaucoup d'Évangile, dans une situation conservée, une situation qui n'a pas été entièrement balayée par la repentance, une repentance réelle et profonde. C'est absolument impossible cela. Et le peu que des gens religieux peuvent conserver, il est possible que des gens religieux conservent quelque chose de ce qu'ils ont appris, de leur position religieuse, disons, eh bien, s'ils veulent mettre l'Évangile en accord avec cette position, ils ne veulent pas abandonner cette position, ils vont tout perdre, même le peu qu'ils pouvaient avoir tout sera perdu. Peut-on réconcilier la chair et l'esprit? L'Épître aux Galates nous montre que la chair et l'esprit sont en opposition l'un et l'autre, et que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin, et cela est voulu, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, dit ce texte. Donc, on ne peut pas réconcilier, jamais on ne pourra réconcilier la chair et l'esprit. C'est une situation peut-être, à un certain point de vue, inconfortable pour le chrétien que d'avoir en lui cette opposition. Mais il l'a. À lui, par la foi, par la fidélité, par le désir de plaire au Seigneur, par l'amour qui doit promouvoir tous ses élans, eh bien, à lui de tenir la chair en respect, la tenir crucifiée. Mais cette opposition, elle existe en chacun de nous. La chair, vous le savez, c'est la nature première de l'homme, et l'esprit dans l'homme, nous aurons l'occasion d'en parler, de l'esprit dans l'homme, c'est lui qui a communication avec l'esprit de Dieu, avec Dieu. Et la chair et l'esprit sont deux antagonistes constamment en conflit, se disputant la priorité. Peut-on réconcilier Ésaü et Jacob quand nous avons lu l'histoire de ces deux frères? Eh bien, nous avons bien compris que Ésaü a déplu à Dieu. D'ailleurs, le prophète dit que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Pourtant, Jacob était un drôle de garçon, pas toujours bien net au point de vue moral. Non, ça n'allait pas très bien. Il trompait. Et pourtant, c'est lui que Dieu préfère. Parce que Ésaü a été, lui, le profane. Ésaü avait le droit d'aînesse, et ce droit d'aînesse, il l'a méprisé. À quoi cela me sert? Mon grand-père Abraham est mort. Mon père Isaac est vieux, va mourir. Moi, je vais mourir. À quoi me sert? À quoi me sert ces promesses? Un plat de lentilles, après cette chasse qu'il affectionnait tant, au retour de la chasse, un plat de lentilles qui sentait si bon. Allez, tu veux le droit d'aînesse, ça comprend-le. Moi, je prends les lentilles. Il prend ce qui est immédiat. Il a saisi ce qu'il voulait pour l'instant, lui. Et pour cela, il s'est dessaisi de ce dont Dieu l'avait fait porteur, mais qui était pour le futur. Il s'est dessaisi de cela. Et Ésaü est l'homme de chair. Et le type de l'homme de chair. Jacob, par contre, lui, sera transformé. Il sera transformé plus tard. Et en tout cas, c'est lui qui prenait plaisir sous les tentes de Sem à entendre parler de l'Éternel. On ne peut donc pas réconcilier Ésaü et Jacob. L'œuvre de Dieu demande à ce que nous l'aimions, et nous ne pouvons pas être indifférent à l'égard de l'œuvre de Dieu. C'est sur la montagne de Sion que sera le salut, dit l'Écriture, dit le prophète Abdias exactement, et non sur la montagne d'Ésaü. A-t-on pu réconcilier le roi Saül et le roi David? Peut-on réconcilier, même maintenant, dans la suite des âges et dans les conséquences qui se sont déroulées, Ismaël et Isaac, impossible. Celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, dit l'Épître aux Galates en son chapitre 4. L'opposition entre la chair et l'esprit sévit dans le cœur du chrétien, mais à l'échelle du monde. Cette opposition explique l'antagonisme irréductible entre la manière d'exister des hommes et celle qu'apporte le Christ de l'Évangile. En résumé, la vérité et la vie qui sont dans le Christ ne peuvent que maintenir leur antagonisme à l'égard du monde, c'est-à-dire de la société des hommes spirituellement morts. Là-dessus, le Seigneur n'a pas hésité. Il a dit à quelqu'un qui voulait aller inhumer à l'inhumation de son père, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi viens annoncer le royaume de Dieu. » Cette contradiction demeure totale en sa nature à travers les âges. Elle ne peut pas plus changer que Dieu lui-même ne change. Pourtant, notre époque connaît une situation de dégradation, d'ignorance et d'aveuglement telle qu'il semble que la contradiction se soit considérablement accrue. Eh bien non, ce n'est pas la contradiction qui s'est accrue, la contradiction, elle ne bouge pas puisqu'elle est absolue, elle est totale. Ténèbres, lumière, mort, vie. Elle est totale, elle ne bouge pas, elle, la contradiction. Mais c'est l'iniquité qui s'accroît, comme l'a dit le Seigneur. Nous allons prendre cette parole dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24 et au verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La contradiction ne peut pas bouger, elle est absolue, disions-nous. C'est l'empire de la contradiction qui s'étend, qui a gagné une ample majorité de la société humaine. Nous sommes arrivés maintenant à un point de l'histoire où nous pouvons dire, comme l'a fait un auteur que vous devez bien connaître, puisqu'il il a été des vôtres, Francis Schaeffer. Comme l'a dit cet auteur dans un de ses livres intitulé « La mort dans la cité ». Nous vivons dans un monde post-chrétien, était son expression. Et combien il avait raison, il y a 18 ans environ qu'il a écrit cela. Dans un monde post-chrétien. Et Francis Schaeffer avait déjà toute raison d'affirmer que la culture chrétienne avait complètement perdu sa prépondérance. Ce sont ces termes. Elle a perdu sa prépondérance. C'est vrai. C'est absolument vrai, chers amis. Au moment où à la Chambre des députés en France, du Parlement français, on a discuté, il y a déjà un certain nombre d'années, la loi nouvelle sur l'avortement. Un député a cru bon de parler de la morale chrétienne et de manifester son opposition au nom de la morale chrétienne. Ah, chers amis. Presque tout le monde, toute la chambre, s'est mise soit à rire, à se moquer de cet intervenant, la morale chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est cela, lui a-t-on dit. Mais mon pauvre ami, mais à quel siècle vivez-vous? C'est fini, ça. Il n'est plus question de ça. Vous n'allez tout de même pas nous mettre ça en avant, dans les jambes maintenant. La morale chrétienne. Alors, voyons. C'est fini pour, voyez, par conséquent, un organisme d'État important, comme peut l'être la Chambre des députés, eh bien, il y a déjà plusieurs années que la morale chrétienne n'a absolument plus rien à faire dans la vie des hommes, dans la préparation des lois et des dispositions qui vont régir la vie des hommes. Oui, Francis Schaeffer, donc, nous dit que la culture chrétienne a complètement perdu sa prépondérance, ce qui est encore plus évident dans le temps actuel où la culture, dont on est si fier et qui est même une idole, la culture, la mentalité ne conserve rien de leur ancienne imprégnation chrétienne. Il y a eu imprégnation chrétienne, chers amis. J'ai des documents qui montrent qu'en France, en Suisse, c'est différent. On est resté, enfin, je pense que l'imprégnation chrétienne s'est prolongée et s'est maintenue et se maintient, je pense, encore dans une notable proportion. Mais en France, cette imprégnation a disparu, on peut le dire, on peut le dire. Elle a disparu. Elle n'a plus de place dans la mentalité moderne. Et c'est quelque chose de terrible que cela. Évidemment, vous me direz, c'était une imprégnation, bien sûr. Mais une imprégnation qui avait tout de même une certaine incidence. Par exemple, il y a 150 ans environ, en France, le ministère de l'Intérieur pouvait s'adresser aux préfectures, aux préfets et des départements et aux fonctionnaires de ces préfectures en leur recommandant de mettre la prière au commencement de toutes les séances de travail. Aujourd'hui, comme nous sommes loin, loin de cela. Francis Schaeffer relevait cette constatation de l'état même du christianisme qu'il voyait comme absolument minoritaire. Et la situation relative du christianisme et de l'islam apparaît sous le jour que voici. Selon la revue Les Cahiers de l'Orient, il y aurait 3 200 000 musulmans en France. Je ne parle pas de la Suisse, je ne connais pas la situation de la Suisse, mais en France, 3 200 000 musulmans, dont la moitié seulement sont étrangers. Et parmi les étrangers, 1 000 000 environ d'Algériens. Ces musulmans sont actuellement stimulés d'une façon assidue par diverses actions. Et par conséquent, ils sont tous pratiquants, même ceux qu'on appelle les Algériens, qu'on appelle les beurs, et qui sont ceux qui sont nés en France, sont donc d'une seconde génération. Même ceux-là ont été rappelés à la pratique de l'islam. Le catholicisme, lui, régresse constamment en nombre. Et il compte en France maintenant 6 millions d'adeptes recensés. Il en a compté 12-14. Le protestantisme peut avoir, lui, à son actif, 500 000 fidèles. Fidèles, si tant est qu'on puisse employer ce terme. Y compris les évangéliques. Au total, le christianisme, donc en France, atteindrait approximativement 6 500 000 personnes. Mais ces chrétiens ne fréquentent leur église qu'en raison de 7 ou 8%, selon des sondages sérieux qui ont été pratiqués. Et ces 7 ou 8% de chrétiens sont donc les seuls pratiquants, les seuls chrétiens pratiquants. Et ceux qui comptent en fait, les autres, sont recensés comme chrétiens, mais ne pratiquent absolument pas leur religion. La situation pour la France est donc celle-ci. Musulmans pratiquants, 3 200 000. Chrétiens pratiquants, 500 000. L'islam est en réalité la première religion pratiquée en France. Voilà une situation qui n'est pas si ancienne que cela, chers amis. Et c'est quelque chose tout de même de grave. Par ailleurs, la presse a plusieurs fois mentionné les conversions à l'islam qui se produisent en France. Déjà, 200 000 Français de souche sont convertis à l'islam. Et vous avez certaines personnes connues comme Maurice Béjart et Roger Garaudy sont convertis à l'islam. Il paraît que cette rapide évolution satisfait beaucoup d'indifférents en France qui voient en cela un renouveau, figurez-vous, un renouveau. Et qui se disent que, après tout, l'islam n'est pas une religion plus étrangère que le christianisme qui, lui, est né au Proche-Orient. Le christianisme, donc, on peut le dire, s'en va, c'est vrai. Son dépérissement caractérise l'évolution des idées et la mentalité contemporaine. Si la mentalité est arrivée au point où elle en est maintenant, c'est bien en raison du dépérissement du christianisme et de l'évasion de cette imprégnation qu'il possédait auparavant dans la société française. Et puis alors, autre chose, c'est que nous voyons l'islam accueilli. L'islam est accueilli. En octobre 1984, la revue Croire aujourd'hui a publié un article documenté intitulé « L'islam et nous ». Et elle faisait place à des sentiments de large compréhension. De l'encyclique Ecclesiam Suam de 1964 du pape Paul VI, les musulmans, il était dit dans cette encyclique que les musulmans cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi musulmane se réfère volontiers. Bien qu'ils ne connaissent pas Jésus comme Dieu, on a l'air de pas trop s'en émouvoir, ils le vénèrent comme prophète. Ah, alors c'est déjà quelque chose. Ils le vénèrent comme prophète. Vous voyez, n'est-ce pas, l'esprit de cela, déjà, rien que de cela. Hein. Connaissent pas Jésus comme Dieu. Ah, bon, oui. Mais ils le vénèrent comme prophète, alors peut-être que, tout de même, ça peut aller, tout de même. Oh, c'est quelque chose d'épouvantable. Vous voyez cette dissolution, vraiment, de la pensée chrétienne. Ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Par conséquent, les musulmans aussi. Ainsi, l'Église catholique regarde avec estime les musulmans. Nous aussi, nous voulons les estimer en tant qu'hommes, bien sûr, les aimer même, n'est-ce pas? Je peux en dire quelque chose parce que j'ai vécu au milieu d'eux. Les aimer, nous les allons aimer. Mais nous leur avons apporté plus que l'Ancien Testament, Abraham et Moïse. Ils aimaient beaucoup entendre parler d'Abraham, de Moïse. Et nous leur avons apporté Jésus-Christ, hein, c'était plus difficile. Hein. Sidnaïssa, ils le connaissent bien sous le nom de Sidnaïssa. L'Église catholique, elle va pousser aussi loin qu'elle le peut ce rapprochement avec l'islam. Dans la collaboration, on est côte à côte, est-il écrit, regardant ensemble dans la même direction et travaillant ensemble au nom de notre foi commune en Dieu à la réalisation des dimensions de l'homme et de l'humanité. Les catholiques et les musulmans travaillent ensemble à cela. Le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament, qui est à la base de la foi chrétienne, est parfois appelé la révélation constitutive. Voyez quelle habileté de langage. La révélation constitutive du dépôt révélé. Mais la révélation elle-même n'est pas close, ajoute-t-on, car le sens de l'événement Jésus-Christ n'est pas encore totalement dévoilé. Ah. Ce dévoilement est appelé à se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Il y a place pour une révélation explicative. Et le Coran est regardé comme cette révélation explicative. Et on recherche même, actuellement on dit que le Coran est une parole de Dieu. On cherche à aller un peu plus loin pour dire le Coran est la parole de Dieu, comme la Bible. Le Coran met sur le mystère infini de Dieu un accent tout à fait différent, bien sûr, de celui de l'Évangile. Mais la recherche théologique sur le rapport à découvrir entre le christianisme et l'islam va se prolonger dans les conseils du Vatican, notamment au sein du groupe de recherche islamo-chrétien, le GRIC, qui est en pleine activité. À vrai dire, l'une des constatations que l'on peut faire aujourd'hui est que le christianisme s'évade dans toutes les directions, et que de plus en plus, sa matière propre se dissout. Nous arrivons donc à l'apostasie. C'est bien le temps de l'apostasie. Je voudrais relire ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apostasie, c'est un terme qui signifie démission de la foi, démission, se démettre de la foi. Apostasier, c'est se démettre. C'est un retour à l'aveuglement. Et malheureusement, cette apostasie connaît maintenant un développement vertigineux. Et pour Francis Schaeffer, la responsabilité première de l'apostasie repose sur la génération actuelle et sur celle qui l'a précédée. Et c'est pourquoi, affirme-t-il catégoriquement, je prête donc la parole à Francis Schaeffer, la religion, l'Église et même la culture n'ont à l'heure actuelle plus de sens. L'homme lui-même est mort. Oui, ajoute-t-il, l'homme moderne meurt de faim et de soif, et la main de Dieu s'appesantit en jugement sur notre culture. Notre monde post-chrétien, état, société, individu, qui s'est détourné du seul consolateur, meurt de faim et de soif. Mourir de faim et de soif, n'est-ce pas là le message du prophète Amos à l'adresse du monde des derniers temps? Nous allons nous reporter maintenant au prophète Amos. Et je lirai au chapitre 8 de ce prophète et au verset 11, du verset 11 au verset 14. Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, « Vive ton Dieu, Dan !» Vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Nous avons ici, dans ce passage, je ne veux pas analyser complètement, mais nous avons des indications qui nous montrent bien que cette prophétie est destinée au temps de la fin, c'est-à-dire à nous-mêmes, en effet, d'une mer à l'autre, c'est la terre entière qui est ainsi évoquée, il s'agit bien d'un temps de détresse. Ils ne la trouveront pas, la parole de Dieu. Il y a donc un moment où ce sera le refus de Dieu, le terrible silence de Dieu, un terrible silence de Dieu. Nous voyons là un peuple saisi du profond besoin, exigeant comme l'est la faim et la soif, d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ce peuple, malheureusement, se décide bien tard à rechercher la parole de Dieu, qu'il délaissait quand elle lui était offerte à profusion. Et c'est pourquoi, alors, ensuite, Dieu fait régner le silence. Ils la chercheront, mais ils ne la trouveront pas. C'est une menace, certes, mais aussi, dans toute menace, il y a incitation de Dieu. Il y a avertissement et incitation de Dieu, incitation à entendre la parole de Dieu, à la recevoir vraiment au fond des cœurs, au moment où elle est délivrée, au moment où la liberté permet de la diffuser, de la prêcher. Et nous avons vu au verset 14 que ces belles jeunes filles et ces beaux jeunes gens, la jeunesse de ce moment, jurent par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu, Dan !» Dan, vive la parole, la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Le péché de Samarie, c'est le veau d'or. Le veau d'or, on avait fait là encore en ces circonstances, un veau d'or dans le nord et un dans le sud. Le veau d'or, et le veau d'or, c'est le détournement du culte vers les divinités que l'on se donne soi-même. Détournement du culte qui est dû à Dieu, de l'adoration en esprit, en vérité, dû à Dieu, détourné au profit de divinités que l'on se donne soi-même. Et en cela réside la cause du châtiment dont fait mention le prophète Amos, le châtiment à venir, et qui vient déjà. Car on constate maintenant une tendance à chercher sécurité et assurance ailleurs qu'en Dieu, même dans nos milieux évangéliques, chercher assurance ailleurs qu'en Dieu, et cela se renforce malheureusement. Pourquoi ailleurs qu'en Dieu? Voilà un point d'examen de la foi pour nos milieux évangéliques. On devrait s'examiner sur ce point-là. Pourquoi ailleurs qu'en Dieu? Pourquoi chercher ailleurs qu'en Dieu? Ailleurs qu'en Dieu parce que la parole de Dieu ne conserve plus dans les cœurs l'autorité absolue qui lui appartient, et ainsi nos pensées ne se laissent plus entièrement pénétrer et conduire par la parole. Nous reconnaissons verbalement quelle est la parole de Dieu, mais non plus toujours en fait. Le Saint-Esprit est attristé. Il y a eu un veau d'or au moment où le peuple s'engageait dans ses longues pérégrinations du désert. Le veau d'or que Aaron avait consenti à ériger dans le désert à la demande des enfants du peuple d'Israël. Ceci s'est affirmé devant le veau d'or, et Aaron même, lui-même, le disait, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Le veau d'or était considéré comme l'Éternel. « Voilà ton Dieu qui t'a fait sortir. » Et en effet, il y eut une fête autour du veau d'or, et cette fête, le livre de l'Exode le précise, a été célébrée en l'honneur de l'Éternel devant le veau d'or. En l'honneur de l'Éternel. C'était toujours l'Éternel, mais représenté, vu dans le veau d'or, par le moyen du veau d'or. Le veau d'or, c'est-à-dire un taureau d'or. Un taureau d'or qui symbolisait la force. Le peuple avait besoin de quelque chose qui symbolise la force. Et l'on se satisfaisait du symbole factice, qu'était ce taureau d'or, au lieu et place de l'authentique puissance de Dieu dans la vérité au fond des cœurs. Et, chers amis, voilà un défaut qui est réapparu maintenant dans nos milieux. Mais le taureau d'or ne pouvait représenter, peut-être que la force, il représentait la force, mais il ne pouvait pas représenter la grandeur, ou la justice, ou la bonté et la miséricorde de Dieu. Il ne pouvait représenter rien de la gloire de Dieu. La force seulement, la force. Et actuellement, on se contenterait de cela, la force. On voudrait une foi qui ne s'attachant qu'à la puissance extérieure, actuellement représentée. Et chers amis, ça, c'est un veau d'or. Le veau d'or ne pouvait représenter donc rien de la justice, de la bonté, de la miséricorde de Dieu, rien de sa gloire. Alors, qu'arriva-t-il? C'est que le peuple eut la liberté de boire, de manger, de se divertir jusqu'à se corrompre, puisque dans cette représentation de Dieu, il n'y avait que la force. Il n'y avait pas autre chose. Et alors, la mort vint frapper le peuple infidèle. 3 000 hommes, nous dit le récit de l'Exode, 3 000 hommes périrent. Aaron n'avait pas su maintenir fermement le principe de la contradiction tellement présent déjà dans l'Ancien Testament. La contradiction de l'esprit à l'égard de la chair. Et cette contradiction était abandonnée. Alors, elle revint, la contradiction. Dieu la fit revenir, mais en forme de châtiment. Et par quel moment, moyen? Par l'épée. Ah, nous allons en parler dimanche, je vous l'ai déjà dit. Nous allons en parler de l'épée. Par le moyen de l'épée. La contradiction revint. Dieu la ramena par l'épée, mais 3 000 hommes périrent. Aujourd'hui, le taureau d'or, donc, je vous disais, réapparaît. On veut une démonstration de puissance extérieure. On ne pense plus et on n'aspire plus à la puissance intérieure. L'amour est doué, l'amour de Dieu, qui est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit, est doué, lui, d'une puissance extraordinaire. Et c'est cette puissance qui est efficace au-dessus de tout. Et puis, on veut aussi de l'extérieur. On veut voir comme le peuple dans le désert voulait voir. On veut du spectacle. Il avait un beau spectacle, ce taureau d'or. Eh bien, pour ça, on avait sacrifié tous les bijoux des femmes. Et maintenant, l'on fait bien des sacrifices aussi pour s'engager dans ce qui est visible, dans le sensible, dans le spectacle, dans le spectaculaire. Le spectaculaire, maintenant, on voit que le monde évangélique a soif de cela. Et ça va loin, et ça va vite. Je disais que dans la revue Certitude, un numéro tout à fait récent, et qui est la revue de Pierre Gavina, pasteur très estimable, eh bien, il y avait un compte-rendu sur le festival récent de Sephora Musique. Sephora Musique a son centre à Reims, en France. Et là, il y a un débordement excessif, et ce sont des artistes. Il n'est plus question de ministère là-dedans. Les ministères sont relégués à un rang insignifiant, même c'est à peine si on en fait mention, mais on voit des artistes avant tout. Et le compte-rendu de la revue Certitude de ce festival faisait, lui, état d'une, notamment, entre autres choses, d'une pièce de théâtre qui avait été jouée, une pièce, au cours du festival chrétien, une pièce de théâtre qui avait été d'un drôle extraordinaire. Et je retiens l'expression de la revue, on croulait de rire. Mes amis, quand je lis des choses comme ça, je dis, ô Seigneur Dieu, Seigneur, retiens encore ton jugement. Retiens encore ton jugement. Car les choses vont loin, sont graves. On faisait aussi de la prophétie le sujet d'une comédie musicale, etc., etc. Vous croyez que Dieu peut accepter cela, mais savez-vous ce qui se passe? C'est qu'en réalité, par ces différents moyens qui prennent de l'extension, de l'ampleur, et je vous dis, ça va à une vitesse qui m'effraie. Eh bien, on fait sa propre satisfaction. On ne cherche pas la satisfaction de Dieu, on cherche la sienne. Une preuve est très simple. Prenez dans nos assemblées en France les réunions de prière. Vous n'y verrez pas grand monde. On a même publié un jour dans la revue Pentecôte, on a publié un article avec un encadrement noir, la réunion de prière est morte, un avis de décès. Bon, la réunion de prière, vous n'y verrez personne. Annoncer une comédie musicale, annoncer un concert, vous allez remplir la salle. Et il n'y a pas bien longtemps, dans mon petit pays de Ganges, 3500 habitants, mais c'est un pays de huguenots, autrefois, il y a un temple qui contient 10 000 places, où il y a 40 personnes en ce moment. Eh bien, il y avait, il n'y a pas longtemps, organisé par l'armée du salut, dans la salle des fêtes, qui est vaste, il y avait une comédie musicale avec des jeunes. La salle était pleine, absolument pleine. Mais, en d'autres occasions, aussi, cette salle a été utilisée soit par l'armée du salut, soit par d'autres organisateurs. Il y a eu des missions. et des missions de prédication de la parole de Dieu. Il y avait 15 à 16 personnes, une vingtaine de personnes. La salle n'était pas pleine. Voilà, chers amis, voilà ce qui caractérise l'état des choses actuelles. On fait ce qui réjouit la chair, on réjouit l'âme. Et nous savons que la parole de Dieu n'est pas destinée directement à l'âme, elle est destinée à l'esprit. Et c'est par l'esprit qu'elle touche l'âme, parce que l'esprit de l'homme a autorité sur l'âme. Mais toucher l'âme directement, la sensibilité, l'émotivité, et prétendre faire l'œuvre du Seigneur par cette voie-là, mais c'est n'avoir rien compris au message du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à la parole prophétique de Jésus-Christ lui-même, Matthieu 24, que nous avons lu tout à l'heure. Avant ce que j'ai lu, il y a ceci, de nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur, comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Ça, c'est la version, la transcription moderne d'Alfred Kuhn. Et après avoir indiqué l'annonce de l'Évangile dans le monde entier, pour généraliser le témoignage, le Seigneur conclut « Et alors viendra la fin ». La version seconde emploie toujours, elle, le terme d'iniquité. Le terme d'iniquité qui a pour signification celle-ci, c'est la vie sans loi, sans frein, c'est tout ce qui est opposé à la justice de Dieu vécue, c'est le mal, c'est la frénésie qui l'amplifie. C'est tout ce qui, dans la vie humaine, est contraire au grand ordre de Dieu, la justice éternelle de Dieu, c'est le grand ordre. Dieu règne, le trône de Dieu est établi sur la justice et l'équité. C'est un état de choses, une manière d'exister, en opposition formelle avec le seul ordre possible que réclame la vie éternelle. Donc, le monde maintenant vit d'une manière telle qu'il est en complète opposition avec l'ordre que réclame la vie éternelle. Et cette opposition, en étant ces manifestations abominables dans tout le tissu social, d'où une métamorphose de la société. L'imprégnation chrétienne, avons-nous dit, a disparu. C'est bien la société post-chrétienne qui, de plus en plus, se trouve soumise à des pressions considérables de la part des puissances du mal. L'homme contemporain devient avide du plaisir et rien ne peut le retenir, toute barrière morale et spirituelle étant supprimée. Selon les termes hébreux dans l'Ancien Testament, l'iniquité, c'est ce qui est tortueux, ce qui est folie dépassant toute mesure, ce qui est révolte contre les lois de la vie. Passion, vice, violence, tyrannie, hypocrisie, corruption des mœurs. Il y a donc dans le monde une mystérieuse force d'ascension du mal sous toutes ses formes, en raison du rejet de l'amour envers Dieu. On ne s'explique la frénésie du mal à l'heure actuelle que par deux causes. La première, c'est la nature déchue de l'homme. L'homme est de plus en plus livré à cette nature déchue parce que toute imprégnation chrétienne disparaît. Deuxième cause, le mystère de l'iniquité où sont cachées des puissances démoniaques. On peut dire que l'accroissement spectaculaire de l'iniquité est la révélation d'une fin prochaine. Il est impossible que ça aille loin. Maintenant, la montée du mal est l'évasion de l'amour envers Dieu et envers le prochain. Le mal est engendré dans le cœur de l'homme, comme le Seigneur Jésus nous l'a si bien appris. Et l'homme est captif, en somme, par son cœur. L'homme est captif par son cœur. Les pensées, les idées ont toujours dirigé le monde. Les positions philosophiques, sociales, politiques, idéologiques. La soif d'avoir, de prendre, de revendiquer, d'être son maître. Voilà ce qui occupe maintenant le cœur de l'homme. L'homme se veut autonome et s'accorde confiance à lui-même. Jérémie nous a depuis bien longtemps prévenu de cela dans son chapitre 17. « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Chapitre 17, versets 5 à 30. Et cette tare n'a pas varié au fil des siècles. Or, la seule vocation que l'homme a reçue est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'être, comme dit Paul dans les Éphésiens, chapitre 2 et verset 22, d'être une habitation de Dieu en esprit. L'homme a été créé pour cela, être une habitation de Dieu en esprit. Et nous, qui avons répondu à l'appel de Dieu, nous, chrétiens, ne devons-nous pas être au premier chef cette habitation de Dieu en esprit? Quand il est séparé de Dieu, l'homme se divinise fatalement. La parole du serpent en Éden était vraiment la fine séduction, la séduction solide pour des siècles, « Vous serez comme des dieux ». Mais, dirons-nous, cela c'est le monde sans Dieu. Mais nous, Église évangélique, provenons d'une réconciliation avec Dieu, d'une régénération, et nous sommes sortis d'iniquité. Oui, c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être, mais ce sur quoi il faut veiller. C'est ce qu'il faut garder. Et on ne peut le garder qu'en se gardant soi-même. En gardant la parole du Seigneur, la garder. C'est tout un programme. En gardant la foi, comme dit Paul dans la première épître à Timothée. Et cela suppose un combat, le bon combat de la foi. Dans l'iniquité, le monde accroît sa pression sur l'Église, principalement en notre temps où il dispose de moyens extraordinaire. On a dit que les médias étaient une vraie caisse, une immense caisse de résonance. Et c'est vrai. Et la résonance se fait entendre dans l'Église. Et l'Église a sous les yeux des exemples qui l'entraînent peu à peu. Et elle se laisse malheureusement glisser. Voilà, chers amis, ce qu'il faut méditer, craindre. Il faut craindre cela, oui, il faut craindre cela. Mais pour y obvier, il n'y a qu'une chose, s'approcher du Seigneur et vivre dans la communion avec le Seigneur, vivre dans une relation intime avec Dieu, avec Jésus-Christ. Là est le grand secret, si je puis dire, le grand secret de la vie véritablement chrétienne. Que le Seigneur nous le permette. Amen.